Alors ce petit temps d'enseignement a pour objectif de nous aider dans notre démarche de combat spirituel. Peut-être on reprendra ça un jour, mais il faut savoir que dans nos vies, il y a toujours un combat spirituel, car nous avons des ennemis. Et vous vous rappelez que, quels sont les ennemis? Selon saint Jean de la Croix, il y en a trois. Vous vous rappelez les trois ennemis de l'âme? Alors, vous êtes un peu timide ce matin. Premier ennemi, le démon. Deuxième ennemi, le monde dans le sens l'esprit contre Dieu. Hein. L'esprit du monde est antéchrist. Ce n'est pas le monde qui est autour de nous, hein. C'est le monde au sens biblique du terme, qui s'oppose à Dieu. Voilà. Et le troisième ennemi, c'est le moi, égocentrique, que saint Paul appelle le vieil homme. Je voudrais savoir, d'après vous, quel est le pire des ennemis? C'est le moi. Parce que lui, il est à l'intérieur, les autres sont à l'extérieur. Bon, d'accord. Donc, nous avons un combat à mener contre, finalement, les tendances mauvaises qui sont en nous. Saint Paul le dira, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Bon. Et puis, il y a le combat extraordinaire. Le combat extraordinaire, c'est, en fait, ce qu'on appelle les infestations diaboliques. Les oppressions, les obsessions, tous ces trucs-là, et qui sont dus à notre péché en général, certaines addictions qu'on a eues, surtout si on a fait de l'occultisme, ou on reverra ça plus tard. Donc, c'est en général dû à notre péché, ça peut être dû au péché aussi de notre généalogie, ou parfois à la magie, à la sorcellerie, des choses comme ça. Bon, on reverra ça. La question, ça sera après de discerner aussi, est-ce qu'il y a du psychologique dans tout ça? Il faut savoir que quand on a des failles d'ordre psychologique, quand on a eu des traumatismes de vie, eh bien, nous pouvons avoir des manifestations qui ressemblent à ce que nous vivons, ce que d'autres vivent sous l'action du démon. Voilà, donc c'est un peu complexe. Mais quel que soit, vous voyez, je vais très vite là, il y a aussi la médiumnité, hein, si on est dans une hypersensibilité, qu'on a ouvert un peu nos portes énergétiques, on ne peut pas les refermer du jour au lendemain, mais ces portes laisse passer aussi des influences diaboliques. Bon, aujourd'hui, je voudrais encore insister sur le fait qu'il n'y a pas de combat extraordinaire sans combat ordinaire. Donc on va s'attarder encore sur le combat ordinaire. Alors, saint Jean de la Croix, l'âme qui est unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Je vous la répète. L'âme qui est unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, pas de chemin de délivrance, en tout cas en milieu catholique, s'il n'y a pas de conversion. On n'est pas, si vous voulez, dans une démarche magique où on va faire des prières qui marchent. Ça ne sert à rien, à mon avis. Ça aura effet un jour ou deux, et puis après tout va revenir, mais parfois pire qu'avant. C'est ce que nous dit l'Évangile. Quand il y a un démon qui est chassé, il va en chercher sept autres. Donc, l'importance que nous ayons fait le choix de Dieu dans nos vies. d'être uni à Dieu, parce que quand on vide un espace, eh bien, autant le remplir. D'accord ? Alors, si notre espace est vidé de la négativité et des démons qui rôdent, comme nous dit l'épître de Saint-Pierre, alors nous prenons conscience que notre cœur profond est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, oui, mais il est là un peu comme un naufragé qui dit « laissez-moi sortir ». Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cet aspect du combat spirituel à mettre en place tout de suite, avant même de faire des prières de délivrance ou d'exorcisme. Alors, comme on vient de fêter la petite Thérèse de Lisieux, vous me voyez venir, eh bien, ça serait trop bête de passer à côté de sa doctrine. Elle est docteur de l'Église depuis 97. Docteur de l'Église. Alors, on va essayer d'écouter la petite Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse de Lisieux qui nous dit d'abord, ça paraît peut-être un peu banal pour des catholiques pratiquants comme vous, des vieux routiers de l'Église, Dieu est amour. Ça vous dit quelque chose ? Dieu est amour. Et elle va rajouter et miséricorde. Parce que, et ça sera mon premier propos, nous enfantons au jour le jour de fausses images de Dieu. Nous imaginons un Dieu qui n'est pas notre Dieu. Et parfois, ce faux Dieu, il est vraiment très agrippé à nos intelligences et à nos cœurs. Alors, pour revenir à la petite Thérèse de Lisieux, je vous cite juste un passage de la comtesse de Ségur. Vous voyez la comtesse de Ségur, qui écrit en 1866 dans ses Comédies et Proverbes. « De mon temps, le respect était la première des sciences. Mais c'est ridicule, inconvenant, impertinent. » D'aimer ce qu'on doit craindre et respecter. À présent, on veut aimer tout le monde jusqu'au bon Dieu. Ce n'est pas la crainte qu'on inculque aux enfants, c'est l'amour. On craint Dieu et son souverain, on respecte ses parents, on aime ses enfants, ses égaux, son chien, son chat. Vous voyez la mentalité ? Donc, on a un espèce de mélange qui était assez présent quand même au 19e et assez présent encore maintenant, un espèce de mélange entre le doucereux, Dieu est amour, on va tous au paradis, d'accord, non, je crois que c'est faux, et un Dieu terrible. Un Dieu terrible. Un espèce de mélange, même dans nos cœurs. Alors, il y a eu un événement en 1897, qui a fait couler de l'encre. C'était l'incendie du bazar de la Charité. Ça vous dit quelque chose ? C'était à Paris. Et cet incendie a fait plus de 120 victimes. Et il va provoquer, à ce moment-là, une polémique sur la justice divine. Dans les milieux ecclésiastiques bien pensants, on va exalter la justice divine. Dans les milieux athées, on va dire, vous voyez bien, Dieu n'existe pas parce qu'il ne pourrait pas faire ça s'il existait. Alors, je vous cite simplement ce qu'écrit Léon Bloir. Il est un peu connu, Léon Bloir. « Enfin, me disais-je tout de même, enfin, enfin, Voilà donc un commencement de justice. Ce mot de bazar a collé à celui de charité. Le nom terrible et brûlant de Dieu réduit à la condition de génitif de cet immonde vocable. Tant que le nonce du pape n'avait pas donné sa bénédiction aux belles toilettes, les délicates et voluptueuses carcasses que couvraient ces belles toilettes ne pouvaient pas prendre la forme noire et horrible de leurs âmes. Jusqu'à ce moment, il n'y avait aucun danger. Mais la bénédiction indiciblement sacrilège de celui qui représentait le vicaire de Jésus-Christ, et par conséquent Jésus-Christ lui-même, a été où elle va toujours, c'est-à-dire au feu, qui est l'habitacle rugissant et vagabond de l'Esprit-Saint. Alors immédiatement, le feu a été déchaîné et tout est rentré dans l'ordre. Bon, ça vous donne envie, hein ? Alors, dans nos têtes, c'est intéressant de s'arrêter un peu. Dans nos têtes, quel Dieu avons-nous construit ? Ça peut être un Dieu gendarme qui punit. Ça peut être un Dieu lointain dans les nuages. Comprenez, il a autre chose à faire que s'occuper de mes petites affaires et de moi. Ça peut être un Dieu injuste. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Ça peut être un Dieu paresseux, il faut faire les choses à sa place. Un Dieu dépourvu de sentiments. Un Dieu moralisateur et castrateur, qui nous impose sa morale, laquelle nous ligote. Finalement, un Dieu contradictoire. Alors, la parole de Dieu, heureusement, nous donne des contrepoisons. Lisons la parole de Dieu, et au jour le jour, car ça n'est pas un luxe. Sinon, nous restons avec nos fausses conceptions de Dieu. Comme si notre Dieu était un peu complice du mal. Ok ? Un peu méchant. Hautain, etc. Prenons un exemple de contrepoison. Jérémie 31. Je t'aime d'un amour d'éternité aussi. C'est par amitié que je t'attire à moi. De nouveau, je veux te bâtir et tu seras bâtie vierge d'Israël. Isaïe 49. La femme oublie-t-elle son nourrisson ? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair ? Même si celle-là oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici que sur mes paumes je t'ai gravé, que tes murailles sont constamment sous ma vue. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Aussi dans l'évangile de Saint Matthieu, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez que le souci, c'est que nous ne sommes pas forcément avec Dieu. Lui, il est avec nous. Mais moi, est-ce que je suis avec lui ? Souvent, je suis dans ma tête, dans mes forteresses intérieures. Je ne suis pas avec lui. Lui, il est avec moi. Alors, ce vrai visage de Dieu, Dieu est amour, nous dit la première lettre de Saint Jean, Et la petite Thérèse, dans son message, nous donne une définition de l'amour. Pour que l'amour, je la cite, « pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. » L'amour de Dieu, autrement dit, c'est un mouvement qui l'entraîne à s'abaisser vers la plus petite de ses créatures. Et si jamais vous vous sentez, pour reprendre les comparaisons de la petite Thérèse, plutôt une violette qu'une rose, eh bien, il faut plus d'amour encore pour descendre jusqu'à la violette, plutôt que de descendre jusqu'à la rose. Donc, si vous n'êtes pas, objectivement parlant, encore que, si vous n'êtes pas une âme d'élite, une rose, et si vous êtes plutôt une petite brindille, avec une toute petite fleur qui ne se voit pas, il faut prendre vraiment une loupe, et encore, eh bien, sachez que Dieu va montrer davantage sa miséricorde en s'abaissant vers vous. Et là, il montre sa toute-puissance. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Cet amour de Dieu, c'est un mouvement qui l'entraîne à s'abaisser. Et elle dira, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Et elle reprendra des images comme la parabole des bras de Jésus, l'ascenseur. Vous savez, du temps de Thérèse, il y avait des ascenseurs, c'était une grande découverte. Et là, elle comprend que pour devenir saint, c'est-à-dire uni à Dieu, ce qui est notre appel à tous, eh bien, nous avons besoin de l'ascenseur. Parce que sinon, nous transformons la morale chrétienne en une morale, justement, et non pas en une spiritualité. L'évangile n'est pas une morale. J'espère que je vous choque. L'évangile n'est pas d'abord un code de morale. L'évangile, c'est une voie et une vie spirituelle. Parce que, si vous voulez, si c'est une morale, peut-être ce sera plus efficace d'aller voir un psy ou d'aller voir un coach qui va nous aider à sortir de nous-mêmes, etc., à rentrer dans la relation non-violente, tout ça. Il y a des outils qui sont très très bien, je le conseille. Par contre, d'être uni à Dieu, alors ça c'est le don de Jésus. Et nous sommes dans la voie chrétienne. La voie chrétienne, c'est l'union à Dieu. Alors, la petite Thérèse va constater que, arrivée justement à cet état d'obéissance à l'Évangile, aimez-vous les uns les autres, comment ? Comme je vous ai aimé, y arriver, c'est impossible. Avec ses forces humaines. Impossible. Parce que vous êtes des tout-petits, nous sommes des tout-petits, et la montagne du Carmel, elle est quand même, c'est l'Everest au plus. Alors, il suffit, voilà donc Le message de Thérèse, il suffit de bien vouloir ce que Jésus veut. Jésus nous dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. On va dire à Jésus, d'accord, j'y vais. Et on va faire le premier pas. Et Jésus vient avec ses bras et c'est l'ascenseur. Ça, c'est la première image. Il y a une deuxième image qui est celle du petit oiseau et de l'aigle. La petite Thérèse se sent comme un petit oiseau qui est tombé du nid. Il n'y a pas de plume encore. Mais elle sait que ses yeux sont comme ceux de l'aigle, parce qu'elle a vu le haut du Carmel et elle dit « ça c'est pour moi ». Et voilà que le petit oiseau, il gémit dans sa flaque jusqu'à ce que le grand aigle, qui est Jésus, vienne jusqu'à lui. Et là, il y a une différence entre la doctrine de Thérèse et la Bible. Parce que dans la Bible, dans le Deutéronome, Dieu prend aussi, par la bouche donc de son prophète, Dieu prend cette comparaison de l'aigle. Il dit « je vous porterai comme sur des ailes d'aigle. » Mais nous, on est au-dessus. Tandis que chez la petite Thérèse, elle a de l'audace, le petit oiseau, il va voler avec les ailes de l'aigle. Et elle dit « les ailes de l'aigle, elles sont à moi. » Yes. Voilà l'audace de l'amour, parce que quand on aime, on dit « tout ce qui est à moi est à toi ». C'est ce que nous dit le Seigneur, rappelons-nous, Luc 15. « Tout ce qui est à moi est à toi ». Alors, tous les trésors acquis par Jésus sont à moi. Oui, si je veux bien être avec lui, évidemment, si je veux bien être uni à lui. Et une troisième parabole de la miséricorde chez Thérèse, il y en a beaucoup, on ne va pas les donner toutes maintenant, c'est celle du docteur habile. Nous sommes sur un chemin avec des obstacles et l'amour de Dieu, c'est un amour qui l'entraîne lui devant nous pour enlever les pierres, pour pas qu'on tombe. D'accord ? C'est un amour de prévenance. Et la petite Thérèse, elle aurait aimé être, à un moment, non pas au Carmel, mais elle avait pensé à une autre communauté à Lisieux. Ça s'appelle le refuge. Et le refuge à Lisieux, c'est une communauté qui accueille des femmes qui ont connu la prostitution et d'autres femmes. Et une règle, on ne sait pas qui est qui. Quand on est en communauté là-bas. Pas question de raconter sa vie passée. Elle aurait beaucoup aimé ça. Voilà. Alors, ce qu'elle dit, c'est que elle, Thérèse, si elle n'est pas tombée dans des trucs énormes, c'est parce que Dieu est venu pour enlever les pierres devant elle, sur le chemin. Donc elle n'a pas de mérite. C'est Jésus qui a tout fait. Ok ? Une autre parabole, ça va être la dernière, c'est la parabole du lapin blanc. Le lapin blanc, eh bien, il est poursuivi par les méchants chiens de chasse. Et puis, à un moment, il arrive au pied du mur. Il y a les méchants chiens qui sont derrière, il y a le chasseur qui est prêt à... Eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, stratégie de ce lapin blanc, il va sauter dans les bras du chasseur. Et le chasseur, touché par sa confiance, va le protéger. Et ça, c'est l'image de chacun de nous lorsque nous sommes entourés par les démons accusateurs, l'accusateur de nos frères qui va nous accuser jour et nuit, l'Apocalypse, d'accord? Et si nous nous réfugions dans le cœur de miséricorde, alors Dieu ne peut pas faire autrement que de nous combler de son amour et de sa miséricorde. On va continuer à parler d'amour. Dieu est amour et amour miséricordieux. Il est Père, notre Dieu est Père. Et son amour, c'est un amour inconditionnel. Chacun de nous est un chef-d'œuvre pour lui. Est-ce que vous y croyez? Vous vous rappelez que dans le manuscrit C de la petite Thérèse, il y avait une sœur qui avait le talent de lui déplaire en tout. C'était difficile avec cette sœur, surtout quand on vit dans un milieu clos, vous imaginez. Alors, elle se disait, Jésus, l'artiste des âmes, il est très content que nous nous extasions devant ses œuvres, qui sont en cours. Hein. On est tous chantiers en cours, hein, d'accord? On est un produit non fini encore. Alors, Jésus, l'artiste des âmes, est très content que nous nous extasions devant ses œuvres, c'est-à-dire que nous sachions en voir la beauté. Amen. C'est un amour inconditionnel. Dieu nous voit déjà comme si tout était accompli. Bon, je pense qu'il y a des parents parmi vous. Alors les parents, comment vous aimez votre enfant? Soit vous avez projeté sur votre enfant vos désirs, soit vous avez l'intelligence de l'amour qui fait que votre enfant, vous le voyez déjà dans son mystère. Comme s'il était grand déjà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. C'est un amour inconditionnel, complètement gratuit et universel. J'ai compris encore, je cite la petite Thérèse, notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. C'est super, non? Nous sommes aimés comme si nous étions seuls au monde. Waouh! Tu ne peux pas dire non, celui qui est à côté, celle qui est à côté, elle est beaucoup mieux que moi, et puis moi. Non, il t'aime comme si tu étais seul au monde. Et il fait tout pour ton bien. Parce qu'il est Dieu. Il est amour. Et l'amour ne se partage pas. L'amour est toujours total. Alors, la petite Thérèse qui se disait, ben oui, il y a des âmes qui ruissellent un peu plus de la grâce que d'autres. Et elle posait la question quand elle était toute petite à sa grande sœur Pauline. Comment ça se fait? Et Pauline lui dit, ben tu vois, si ton âme c'est un dé à coudre, Dieu va le remplir complètement. Si ton âme c'est un réservoir immense, ben, Dieu va le remplir complètement aussi. En tout cas, c'est toujours la plénitude en Dieu. Bon, on va lui demander que notre âme soit un petit peu... hein, que nous étendions... nos dimensions intérieures. Pourquoi pas? Voilà. Je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qu'il vous a plu de me prodiguer gratuitement sans aucun mérite de ma part. C'est toujours assez étonnant, hein, d'entendre certaines conversions. Saint Paul, par exemple, un terroriste, ah oui, c'est le djihad juif de l'époque. Il a du sang sur les mains. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, comblé de la grâce de Dieu qui va transformer son cœur. Waouh! Dieu ne nous aime pas comme une espèce de récompense parce que nous avons bien agi, il nous aime parce qu'il est Dieu. Alors à nous, effectivement, eh bien, d'accueillir son amour, on le verra tout à l'heure. Dans une poésie de Thérèse, elle dit « Ô toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel, pour moi, ton cœur est plus que maternel. » Son amour, c'est un amour paternel, maternel, c'est un amour qui sauve, bien sûr. Nous sommes sauvés. Alléluia. Vous savez, il y a des protestants évangéliques qui disent « Ben, je suis sauvé. » Ou, il me parle, moi j'ai un ami évangélique, alors on communique assez souvent, et puis il me raconte tous ceux qui sont sauvés pendant la semaine. Parce que lui, il y va. Hein. Donc c'est l'évangélisation, tout ça. Et puis il me dit, ben, cette semaine, il y en a deux, trois qui sont sauvés. Mais vous y croyez, vous êtes sauvés ou pas?
Oui.
Bon, peut-être se secouer les catholiques là. Hein. Donc, il nous sauve, oui. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres. C'est pas moi qui le dis, c'est Colossiens 1, 13, je crois. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes sauvés. Mais sauvés de quoi? Ben, sauvés de la mort. Ben oui, parce que si nous ne connaissons pas Dieu, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Enfin, vous me direz, on est déjà mort quelque part, spirituellement. Si Dieu n'est pas dans un cœur, comment ce cœur peut-il vraiment aimer? Amour, miséricordieux. Si Dieu n'est pas là, si je ne fais pas un pacte avec Jésus, au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? Parfois, je prêche là-dessus dans les funérailles. Plus souvent au baptême, quand même. Ben, Jésus a dit « Je suis le chemin, le chemin. Je suis la porte. » Il n'a pas dit « Je suis un chemin, une porte. » Il a dit « Je suis la porte. » Et il a dit aussi, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit de ma vie et croit en moi, ne mourra jamais. » Vous y croyez? Bon, c'est ce qu'il a demandé aussi à Marthe, Jean 11, au moment de la résurrection de Lazare. Mais c'est énorme! On est sauvé de la mort éternelle! Waouh! Et la mort éternelle, ça commence maintenant, quand on est incapable d'aimer, quand on est incapable de vérité, on est dans nos forteresses, dans nos idéologies et tout ça. Et en fait, on se débat intérieurement, mais c'est pas terrible, au bout du compte, vous voyez. Alors il nous sauve et il nous libère de la condamnation. Romains 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. » Voilà. Mais il faut le dire haut et fort. Et le message de Thérèse, c'est ça. On est sauvé. Elle va jusqu'à dire, moi, au soir de la vie, je voudrais me présenter à Dieu les mains vides. Parce que si je me présente à Dieu en disant, mais voilà toutes mes bonnes actions, je coche, t'as vu quand même que je coche presque toutes les cases. Bon. Eh bien, figurez-vous que ce ne sera pas suffisant. Pourtant, la grande Thérèse, elle avait dit, avant, eh bien, qu'elle ne voudrait pas se présenter les mains vides devant Dieu. Enfin bon, on est dans un autre contexte. La grande Thérèse d'Avila. Et la petite Thérèse, elle reprend cette histoire de mains vides, et elle dit, moi, je veux, le soir de la vie, me présenter devant vous, Seigneur, les mains vides. Parce que si elle a acquis des mérites, c'est toujours les mérites du Christ et elle les donne aux autres. Elle les donne aux autres. Elle va dire un jour, je marche pour un missionnaire. S'il y a des mérites, c'est pas pour elle. Parce que nous, on a tout en Christ. Vous savez, c'était à l'époque, il fallait gagner des mérites. Alors, gagner des mérites. Pour avoir une couronne, dans sa couronne, plus de pierres précieuses. Ok ? Alors, la petite Thérèse, elle dit, les directeurs, ils nous enseignent à faire des actes d'amour. Ils ont bien raison, mais mon directeur à moi, qui est Jésus, ne m'enseigne pas comme ça. Il me dit de tout faire par amour. Ça marche ? Voilà. Alors, vous connaissez toute cette parole de Thérèse par cœur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la fin du manuscrit C. La fin d'un manuscrit, c'est un testament. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché, elle parle de péché grave, hein, que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Voilà. Et enfin, donc l'amour de Dieu, un amour paternel et maternel, unique, universel, comme si on était tout seul au monde. C'est un amour qui nous sauve, oui, de la mort éternelle. Et c'est un amour de l'époux à l'épouse. Comment pouvez-vous comprendre que on puisse faire encore aujourd'hui un vœu de chasteté? Mais attendez, on n'est pas maso. Le vœu de chasteté que les prêtres font et que les religieux font, c'est un charisme. Parce que Jésus est venu pour nous dire, c'est moi l'époux de ton âme. Et c'est pourquoi nous faisons le vœu de chasteté. C'est pas pour être plus disponible et tout ça, et tout le monde, voilà, ça c'est la conséquence. Enfin, j'ai pas fait le vœu de chasteté pour être plus disponible. Moi j'ai fait ce vœu parce que Jésus est venu un jour me dire, je suis l'époux de ton âme. Et on va comprendre que ce Dieu, amour, se fait mendiant de notre amour. Il nous dit, mais je t'aime, je t'aime. Et nous, on va dire, ah, Seigneur, j'ai pas le temps d'abord. Seigneur, non, je suis pas digne. Et ce Dieu se fait mendiant de notre amour. Vous savez, il y a une image très importante dans la vie de la petite Thérèse. C'est un crucifix. Une image très très classique, Saint-Sulpice. Il y a une Marie-Madeleine qui se prosterne au pied de la croix, puis il y a la croix de Jésus et Jésus sur la croix. Et un jour, elle a 14 ans, quelques mois avant, à Noël, elle a reçu l'effusion du Saint-Esprit, elle le raconte, « Je sentis la charité pénétrer dans mon cœur. » Le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et alors je fus heureuse. Depuis, je fus heureuse. Ça, c'est la conversion de Thérèse, à 14 ans. Et quelques mois après, elle voit cette image, qui paraît très très banale. Et cette image, elle va la poursuivre toute sa vie. Elle va entendre, elle va voir. Elle entend la voix de Jésus qui dit « J'ai soif ». Et elle voit le sang de Jésus qui coule de ses plaies. Il n'y avait pas de sang sur l'image. Mais elle voit le sang qui coule sur des plaies de Jésus par terre. Et elle dit, non, moi, je vais être là pour recueillir le sang. Ceux parmi vous qui ont vu le film de Mel Gibson, La Passion, on a vu une scène magnifique où la Sainte Vierge est là au pied de la croix et elle recueille le sang de Jésus pour le répandre. Et là, elle va le répandre d'abord sur elle. Et Thérèse, elle dit, non, moi je vais être là, au pied de la croix, je veux recueillir ce sang pour le répandre sur les âmes. Et elle comprend que Jésus est mendiant d'amour. Il veut sauver les âmes, mais il a besoin de nous. On a célébré, il n'y a pas très très longtemps, la fête de Notre-Dame de la Salette. Et vous vous rappelez que la Sainte Vierge, à la Salette, elle dit, je n'arrive pas à retenir le bras de mon fils. Alors vous pensez que c'est parce que le bras de son fils, il va nous donner une fessée? Non. Moi, je ne crois pas. La Sainte Vierge est au pied de la croix et elle soutient par sa prière, par sa présence, les bras de Jésus qui sont attachés à la croix encore aujourd'hui, oui, parce que toute la vie de Jésus est éternelle, chaque instant de sa vie sont éternels. Et elle nous invite, la Sainte Vierge, à être là aussi pour soutenir les bras de Jésus par notre prière. Et ça, c'est le mystère de l'amour. Jésus m'en dit notre amour. Et la petite Thérèse comprend ça. Il se fait tout petit, l'enfant Jésus, il m'en dit notre amour. Est-ce que vous avez déjà pris l'enfant Jésus dans vos bras? Allez-y, faites-le, spirituellement, bien sûr. On se sent un peu gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il m'en dit votre amour. Il se fait petit. Aussi, le mystère de la Sainte Face. Il n'avait plus figure humaine. Et il m'en dit notre amour. Est-ce que tu m'aimes? Demandera Jésus ressuscité à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Et puis enfin, dans l'Eucharistie, il m'en dit notre amour, car dans l'Eucharistie, il prend un risque énorme. J'allais dire, on devrait recevoir l'Eucharistie à plat ventre, complètement prosterné. Est-ce que nous sommes conscients que c'est Dieu lui-même qui se donne dans l'Eucharistie? Il prend le risque d'être profané. Nous, les prêtres, il faut qu'on fasse très attention. C'est les petites miettes qui vont tomber, je ne sais pas où. Dans chaque parcelle d'hostie, c'est Jésus qui est là. Et il se livre à notre amour. Il dit, mais est-ce que tu m'aimes encore plus que cela? Vous voyez, Jésus est malade, nous dira Thérèse. Et il faut remarquer que la maladie de l'amour ne se guérit que par l'amour. Elle écrit à sa cousine Marie Guérin, « Marie, donne bien tout ton cœur à Jésus, il en a soif, il en est affamé. Comment ne pas aimer un ami qui se réduit à une si extrême indigence? Comment oser alléguer encore sa pauvreté quand Jésus se rend semblable à sa fiancée? Il était riche et il s'est fait pauvre pour unir sa pauvreté à la pauvreté de Marie du Saint-Sacrement. Quel mystère d'amour! Même si c'est un amour qui se voile, là oui, la preuve de l'Eucharistie, se voile. Mais vous savez, l'amour, il est pudique. L'amour est toujours pudique. Il faut se méfier quand l'amour se donne en spectacle. C'est plus de l'amour. L'amour de Dieu est pudique. Il nous entraîne dans la chambre nuptiale intérieure. C'est le message de la grande Thérèse, avec le château et les demeures du château, vous voyez. Il va nous faire entrer dans cette demeure intérieure pour nous apprendre que nous avons un cœur. Et ce cœur, il est fait pour aimer, mais attention, de l'amour de Dieu, de l'amour même de Dieu. Alors, c'est la deuxième partie maintenant de mon exposé. Cet amour de Dieu qui nous est proposé, qui est miséricorde, c'est un amour qui va nous transformer. Et que nous pouvons recevoir ou pas. Alors, bonne nouvelle, on est tous appelés à recevoir cet amour et à brûler de cet amour comme le buisson ardent brûlait du feu de Dieu. Vous vous rappelez l'Exode ? Moïse qui s'approche de ce spectacle. Feu de Dieu, désormais, veut brûler non pas des buissons, mais nos cœurs. Non pas d'un faux amour, je t'aime parce que tu me fais plaisir, parce que j'ai besoin de toi, je t'aime parce que tu es très agréable, ça c'est un faux amour. Ce que j'appelle l'amour du chat. On vous caresse dans le bon sens du poil, ah ben vous aimez, voilà, on aime. Et puis dès que on vous donne un coup de patte, vous n'aimez plus du tout. L'amour de Dieu est un amour personnel, inconditionnel, un amour de miséricorde. Et la petite Thérèse comprendra que Jésus est assis à la table des pécheurs. C'est pas si facile, oui, d'aimer même ses ennemis comme Jésus le demande, et lui, il est assis à la table des pécheurs, et il va manger ce pain, qui est un pain amer, et il le fera sur la croix, en prenant le vinaigre. Mais tout par amour. Tel est l'amour de Dieu. Et, bonne nouvelle, nous sommes appelés à mettre en pratique le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors je vous fais le commentaire de la petite Thérèse. Tu me demandes, Jésus, d'aimer toutes mes sœurs comme toi, tu les aimes. Et c'est en cela que c'est un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Elle continue. Mais tu sais bien, Jésus, que je ne peux pas aimer mes sœurs comme tu les aimes, avec mes propres forces. Et elle continue encore. Or, tu ne saurais nous donner un commandement impossible. Conclusion. Jésus, c'est toi qui va venir aimer mes sœurs dans mon cœur. Et elle dira, c'est Jésus qui fait tout, moi je fais rien. Sauf qu'elle va rajouter, il suffit de bien vouloir. Décidons-nous. Qu'est-ce que nous décidons? Ça, c'est important. Décidons-nous au jour le jour de répondre oui à notre vocation à l'amour. Dieu fera le reste. Mais décidons. Alors, vous connaissez tous le manuscrit B de la petite Thérèse, où elle va découvrir sa vocation. En fait, dans le corps mystique de l'Église, vous savez, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les martyrs, enfin, voilà, les confesseurs, etc. Et elle, elle se reconnaissait dans tous les membres de l'Église. C'est pour ça que, on va même dire, la petite Thérèse, elle aurait aimé être prêtre. Oui, mais pas seulement. Elle aurait aimé être martyr, mais pas seulement un martyr. Enfin, elle est complètement folle de Dieu. Et elle va comprendre. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin, je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. » Vous avez bien entendu, « je serai l'amour ». Ce n'est pas simplement « oui, un jour je vais réussir à aimer comme toi tu aimes ». Non, un jour, en fait, dans le cœur de l'Église, je serai moi, je serai l'amour. Jésus avait dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Vous savez, quand on baptise un enfant, j'en ai baptisé un il n'y a pas très longtemps, un bébé, on dit « il est né de nouveau, la vie nouvelle ». Ben oui, c'est une vie nouvelle. On a deux vies, hein. On a la vie naturelle et on a la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle commence quand? Ben, elle commence au baptême, quand on en fait un pacte d'alliance avec Jésus. Le pacte d'alliance. Mais le baptême, ce n'est pas suffisant, excusez-moi. J'ai un peu choqué les gens quand j'ai dit ça. Oui, parce que le baptême, c'est comme une graine. Le don de Dieu, il est semé. Mais dans quelle terre? Il faut la foi. Celui qui croit en moi, celui qui sera baptisé, celui qui croira, lui sera sauvé. Ça ne suffit pas d'être baptisé, autrement dit. Ah mon père, j'ai tout fait. Je suis baptisé, confirmé, communié. J'ai fait ma première communion. Et moi, je rajoute, et c'était la dernière communion. Pourquoi vous avez lâché Dieu? Waouh! Attendez, sortons de cette espèce de ritualisme qui est affligeant. On est appelé, non pas un ritualisme, on est appelé à la vie dans l'esprit. Galates 5, 25. Puisque l'esprit est votre vie, que l'esprit vous fasse agir. L'Esprit Saint. Voilà. Donc, on a bien compris que nous sommes appelés à être amour. Mais on a entendu aussi ce qu'est l'amour. Amour miséricordieux. Autrement dit, si je suis devant vous, je suis tranquille. Parce que je suis avec des frères et sœurs qui sont devenus amour et il n'y a pas de condamnation. Je ne risque pas d'être jugé ni condamné. Alléluia! Voilà. Oui, dit la petite Thérèse, je le sens. Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Et finalement, elle va dire, la perfection consiste à faire sa volonté de Dieu, à être ce qu'il veut que nous soyons. Il y a un projet de Dieu sur nous, mais aussi un projet du démon. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la vie de Sainte Thérèse d'Avila. À un moment, Jésus lui montre sa place en enfer. Véridique. Faites votre choix. Je ne sais pas ce que vous choisissez, vous. Ben, autant choisir notre place au ciel. Je vous ai préparé une place, dit Jésus, et je reviendrai. Sauf que, il s'agit de naître de nouveau. N'attendons pas la dernière minute. Ce serait trop dommage. J'espère que vous êtes convaincus. Ok. Alors, comment on fait? Comment on fait pour que cet amour de Dieu soit en nous? Comment on fait? Eh bien, je vous donne le truc de la petite Thérèse. On va se livrer, se donner à l'amour miséricordieux. C'est dangereux, hein? Non pas parce qu'il va nous arriver une tuile, la petite Thérèse, elle le dit elle-même, hein? Voilà. Il ne s'agissait pas de s'offrir à tout un luxe de souffrance surérogatoire, mais de s'abandonner avec une entière confiance à la miséricorde du bon Dieu. Voilà. Parce que quand on vous dit, oui, on vous propose de vous donner à Dieu, et là, on s'imagine déjà dans son lit, dans un lit de souffrance, comme Marthe Robin, donc on va plus manger, plus dormir pendant 50 ans, enfin, ça paraît un peu rude, quoi. Donc c'est un peu risqué de se donner à Dieu. Ça, c'est faux! Mensonge diabolique! Notre vie, elle est faite pour être donnée à Dieu, comme lui, il nous donne sa vie. Alors, le tout, c'est de ne pas donner que la moitié. Je te donne, Seigneur, un petit moment le dimanche matin. Enfin, vous me direz, c'est un bon début. Bon, en fait, vous savez, l'amour est jaloux. Il nous aime. Est-ce que quand vous aimez quelqu'un, vous vous contentez juste d'une heure et quart par semaine, le temps de la messe du dimanche? Ben non, vous voulez que cette personne soit toujours avec vous, jour et nuit. Et c'est ce que dira la petite Thérèse, il me faut une âme qui soit toujours avec moi, mais jour et nuit, qui ne me lâche pas. Et ben, elle trouve cet amour en Jésus. Cet amour, vous ne le trouvez pas dans une créature. D'accord? Si vous êtes jour et nuit toujours avec la même personne, il y a un moment où ça va exploser. Mais avec Jésus, c'est possible. C'est pour ça que le commandement, c'est d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Parce que si vous demandez à une créature de remplacer Dieu, vous allez la vider de sa substance, c'est ce que j'appelle l'amour vampire. Alors viens pour que je profite de toi. Vous voyez, parfois on a des expressions un petit peu bizarres. L'amour vampire. Non, Dieu est jaloux. Et il attend. Il attend même chaque soupir de notre cœur. Il guette chaque soupir de notre cœur. Il est ce mendiant d'amour qui dit j'ai soif de toi. Alors, effectivement, à nous de nous donner totalement au Seigneur. Et si nous nous donnons totalement au Seigneur, nous allons le laisser prendre le volant de notre vie. D'accord ? C'est Jésus qui fait tout, mais il nous demande de dire oui à sa volonté, ça oui, et toujours de monter vers la première marche, ça oui. Alors, ceux qui sont d'accord, on va faire un petit exercice spirituel. D'abord, est-ce que ceux qui aimerait redire à Jésus que leur vie et leur cœur lui appartient. Est-ce que ceux-là peuvent se lever? Les autres, aucune honte, parce qu'il y a un moment pour tout. Alors, je vous préviens quand même, le seul risque que vous allez courir en donnant votre vie à Jésus et en vous livrant à l'amour miséricordieux, c'est de devenir un buisson ardent. Parce que la petite Thérèse, elle nous dit qu'après son offrande, elle a senti comme des océans de lumière et d'amour qui l'environnaient. Bon, ça avait l'air assez agréable quand même. Mais je vous dis que c'est quand même un risque. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez. Hein. Alors allons-y. Je vais vous lire une fois une première prière, et puis après une deuxième prière, parce qu'aujourd'hui c'est Sainte Faustine, donc quand même, on ne va pas négliger Sainte Faustine. C'est juste la première prière que je vous propose d'écouter seulement, et après on la dira ensemble, ceux qui le veulent. Donc c'est un extrait, on a changé quelques mots, parce que bon, le vocabulaire de l'époque de Thérèse peut nous choquer un peu, mais bon. Donc c'est un extrait de l'offrande de soi-même, de moi-même, comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. On ne dira pas victime d'Holocauste. Victime, ça veut dire celui qui est victime, c'est celui qui s'offre. Donc dans le langage spirituel, attention, mais on ne va pas le dire ici. On remplacera par offrande. Et holocauste, ça veut dire entièrement brûlé de l'amour. On ne dira pas holocauste parce que dans notre tête, ça veut dire autre chose. D'accord ? Donc vous me pardonnerez cette petite interprétation. Et on se tourne intérieurement vers Jésus, l'époux de nos âmes. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire t'aimer et te faire aimer. Je désire accomplir parfaitement ta volonté et arriver au degré de gloire que tu m'as préparé dans ton royaume. En un mot, je désire être saint. Mais je sens mon impuissance et je te demande, ô mon Dieu, d'être toi-même ma sainteté. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre tout entier à ton amour miséricordieux, te suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en toi, et qu'ainsi je devienne témoin de ton amour, ô mon Dieu. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, te renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que, les ombres s'étant évanouies, je puisse te redire mon amour dans un face-à-face éternel. Je propose de répéter après moi, ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire t'aimer et te faire aimer. Je désire accomplir parfaitement ta volonté et arriver au degré de gloire que tu m'as préparé dans ton royaume. En un mot, je désire être saint, mais je sens mon impuissance et je te demande, ô mon Dieu, d'être toi-même ma sainteté, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre tout entier à ton amour miséricordieux, te suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en toi, et qu'ainsi je devienne témoin de ton amour, ô mon Dieu. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, te renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse te redire mon amour dans un face-à-face éternel. On va enchaîner par une prière que Jésus a dictée à Sainte Faustine. Seigneur Jésus, transforme-moi tout en ta miséricorde. Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais fermées à leur appel. Fais que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous, j'ai des paroles de pardon et de réconfort. Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible, pour alléger ainsi les fardeaux des autres. Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain. Malgré ma fatigue et mon épuisement, que je me repose en servant. Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à personne, même à ceux qui en abusent. Et moi-même, je m'enfermerai dans le cœur de Jésus. Jamais je ne dirai mot de mes propres souffrances. Puisse ta miséricorde se reposer en moi, Seigneur. Transforme-moi en toi, car tu es mon tout.